Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de ce midi, 13 morts et des blessés, c'est le bilan d'un chablis survenu l'après-midi de vendredi dernier dans le village Kimbinga, situé dans le secteur de Bindungi, en territoire de Massimanimba, province du Kwilu. Il s'agit d'un gros arbre qui est tombé sur 13 enfants qui sont morts sur le champ dans la forêt où ils étaient partis en cueillette des chenilles, annonce le gouverneur de province. Le Premier ministre poursuit son séjour à Goma. Samalou Kondé Kiengé se réjouit de l'évolution de la situation après l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier. Il s'est ainsi exprimé au sortir d'une série de réunions tard dans la soirée d'hier samedi avec différents acteurs impliqués dans la gestion de la crise. Notre invité est le coordinateur diocésain des écoles catholiques au diocèse de Mbujimayi. Il revient sur la collaboration entre l'État et l'Église catholique sur la gestion des écoles. Encore une fois, bienvenue à l'écoute de ce journal. 13 morts et des blessés, c'est le bilan d'un chablis survenu l'après-midi de vendredi dernier dans le village Kimbinga, situé dans le secteur de Bindungi, en territoire de Massimanimba, province du Kwilu. Il s'agit d'un gros arbre qui est tombé sur 13 enfants qui sont morts sur le champ dans la forêt où ils étaient partis en cueillette des chenilles, annonce le gouverneur de province. Willy Chundala indique que c'est hier samedi que les corps sans vie de ces victimes ont été mis en terre avec les moyens du gouvernement provincial. En attendant, le vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, est en route vers le lieu du drame pour s'enquérir de la situation et apporter une assistance aux familles éprouvées. Willy Chundala, gouverneur de la province du Kwilu, a été joint par Irène Boma.
Dans les villages de Kimbinga, en secteur de Bindungi, dans le territoire de Massimanimba, les enfants sont allés à la cueillette des chenilles en forêt. Un gros arbre est tombé là-bas. 13 corps ont été retrouvés sur place. Aussitôt saisi dans la nouvelle, nous avons demandé à l'administrateur du territoire, avec un peu de moyens, pour aller assurer l'enterrement de ces gens. Aujourd'hui même, je viens de dépêcher le vice-gouverneur jusqu'au lit pour aller assurer des familles éprouvées. Ce sont des enfants qui sont partis, il n'y a pas eu de majeur dans les groupes. Vous devez savoir qu'en cette période, les enfants sont en détente, hein. Ils n'ont pas pu être à l'école. C'est pourquoi il y a eu beaucoup d'enfants. Oui, quelques rares blessés, mais les gros, ce sont des morts. Le vice-gouverneur est en route. C'est lui qui nous donnera les autres détails pour nous permettre de prendre les différentes dispositions. Aux parents, nous le présentons nos sincères condoléances. Au plus tard demain, le vice-gouverneur sera sur l'arrêt, pourra leur apporter notre assistance, tant soit peu.
Je le disais en titre, en ces jours de travail à Goma, le Premier ministre dit se réjouir de l'évolution de la situation après l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier. Samalou Kondé Kiengé s'est ainsi exprimé au sortir d'une série de réunions tard dans la soirée d'hier samedi avec différents acteurs impliqués dans la gestion de la crise. Selon lui, des discussions sont en cours en vue d'envisager le retour ordonné des déplacés dans la ville de Goma. Bernard Nyangui.
À la tête d'une délégation constituée notamment d'une dizaine de ministres et au moins trois députés nationaux, le Premier ministre, aussitôt arrivé, a présidé une réunion de sécurité élargie aux autres acteurs impliqués dans la gestion de la crise liée à l'éruption du Nyiragongo. C'était après un briefing de la situation avec les experts vulcanologues de l'OVG et la communauté humanitaire. Pour M. Samalou Kondé, la priorité est accordée à une coordination du retour des déplacés en conformité avec les paramètres sécuritaires dans la ville de Goma.
Nous sommes venus poursuivre les discussions avec les humanitaires quant à la coordination à faire au vu de la possibilité du retour séquencé et organisé des populations ici dans la ville de Goma. Et nous avons tenu une réunion de sécurité parce que nous sommes en état de siège. Il fallait que le gouverneur militaire ainsi que le vice-gouverneur de la police puisse nous faire l'état des lieux en rapport avec aussi la situation du Nyiragongo.
Rappelons que cette visite du Premier ministre Samalou Kondé fait suite à une première délégation gouvernementale composée de 7 ministres qui avaient été dépêchés 48 heures après l'éruption du Nyiragongo pour faire un premier état des lieux de la situation. Samalou Kondé, avec sa délégation, poursuivait leurs travaux ici au chef-lieu de la province ce dimanche. Goma, Bernard Nyangui, Radio Kapi.
Le centre d'études pour la promotion de de la paix, la démocratie et les droits de l'homme salue la visite du Premier ministre Samalou Kondé Kyenge à Goma. Le CEPADO, qui reconnaît en cet acte une marque de compassion et de solidarité de l'autorité, encourage le chef de l'exécutif national à faire de même à Beni et à Ituri pour conforter la population meurtrie par les massacres à répétition des ADF. Maître Omar Kavota, vice-président du conseil d'administration du CEPADO, le dit au micro d'André Kitenge.
Nous saluons la visite du Premier ministre à Goma et nous réalisons qu'il s'agit d'une marque de compassion et de solidarité avec la population affectée par la catastrophe naturelle vécue il y a peu, à savoir l'éruption volcanique. Nous disons que autant le Premier ministre se montre compatissant et attentif à ce qui se passe dans cette province, particulièrement à Goma, autant il devrait témoigner de sa solidarité et de sa compassion avec les victimes des actes terroristes auxquels on fait face dans la partie nord de la province du Nord Kivu, à savoir Beni Butembo et aussi en Ituri. Nous voudrions voir le chef de l'exécutif national venir aussi en visite à ces lieux pour témoigner son soutien et sa solidarité avec cette population meurtrie. Nous voudrions qu'il soit celui qui suive au quotidien l'évolution de la situation ici. Et nous comptons sur lui pour que la paix et la sécurité durable soient vécues dans nos deux provinces.
Au Nord Kivu, plus de 1000 personnes déplacées des massacres de Beni et du volcan Nyiragongo vivant à Butembo ont bénéficié ce samedi d'une assistance en vivres et non-vivres du club RFI et de Rotary Club Semuliki. Ces derniers ont voulu ainsi exprimer leur compassion vis-à-vis de ces personnes en situation difficile. Les déplacés qui vivent dans les familles d'accueil ont été rassemblés à la radio évangélique de Butembo à cette occasion. Autant les donateurs que les bénéficiaires ont émis le vœu de voir la paix rétablie définitivement dans la région pour que chacun puisse regagner son lieu de provenance. Grâce Hamzati était présent, voici son reportage.
Ces dons en vivres et non vivres étaient constitués notamment des sacs de riz, maïs, haricots, sel, savon ainsi que des habits. Les donateurs ont invité les humanitaires et toutes les personnes de bonne volonté à venir en aide à ces personnes qui ont besoin d'une assistance. Jackson Bouassa, le chargé d'administration et logistique au sein du club RFI Butembo, appelle tout de même les autorités du pays à prendre leurs responsabilités.
Je vais commencer par le gouvernement. Il est vrai que notre aide est signifiante et nous exigeons au gouvernement de ramener la paix pour que tout ce monde rentre dans leur quartier, dans leur village, dans leurs entités. Et le gouvernement devrait d'abord les assister en état ici parce qu'ils sont très nombreux. On a vu plus de 1500 personnes ici. Et nous pensons aussi aux autres membres de la communauté, les autres associations, organisations, les autres églises de venir en aide à ces déplacés ici, qui sont dans une situation très déplorable.
Tout en saluant ces gestes de générosité, les bénéficiaires, dont la plupart sont venus du territoire de Beni fuyant les atrocités des ADF, ont fait savoir que leur principal souhait est de voir la paix restaurée définitivement dans la région pour qu'ils puissent reprendre leur vie d'antan. Butembo, grâce à Hamzati, Radio Kapi.
En Ituri, après 3 mois de paralysie, les activités socio-économiques et scolaires reprennent timidement dans la chefferie de Walese Vokuntu, en territoire d'Irumu, ce, après la reprise en mai dernier par les FARDC des localités jadis occupées par les rebelles des ADF. Le point avec Charlie Omba.
Cette reprise des activités est marquée par les retours des populations dans les villages d'Endalia, Mambelenga et Ndimo qui avaient fui ces localités en mars dernier. Selon la société civile locale, plus de 10 écoles ont réouvert leurs portes cette semaine. Dans certains marchés de ces villages qui ont aussi repris leurs activités, la plupart des ménages s'approvisionnent à vivre. Des marchands ont commencé à étaler de nouveau leurs marchandises. C'est en mai dernier, au début de l'état de siège, que l'armée avait lancé une offensive victorieuse contre le rebelle ougandais des ADF. Il y a quelques jours, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Kachamalouboya, demandait aux populations des localités libérées de regagner leurs milieux d'origine. Cependant, certains commerçants affirment avoir toujours peur des menaces de ces rebelles ougandais. Mais les autorités locales affirment que les dispositions sécuritaires sont déjà prises pour sécuriser la population. Pour sa part, Christophe Mounianderou, coordonnateur de la société civile de Walese et Vokuntu, affirme que traquer ces rebelles est une réponse pour stopper l'insécurité dans cette partie de l'Ituri. Bounia, Charlie Omba, Radio Okapi.
Le banditisme urbain se porte bien à Bukavu et plus particulièrement au quartier Kanfou dans la commune de Kadutu. Des bandits armés ont visité plusieurs ménages dans la nuit de samedi à ce dimanche sur l'avenue Clinique. Les malfrats ont réussi à dévaliser une boutique avant d'être mis en déroute par la clameur publique. Ils ont tiré plusieurs balles pour se frayer un passage. La population indique n'avoir reçu aucune intervention des services de sécurité. Patrick Mungu Akonkwa du mouvement citoyen Obapai, joint par Jean Kassami, renseigne que c'est le 1e cas d'attaque des bandits armés enregistré dans ce quartier.
La nouvelle dynamique de la société civile d'ici Kadutu a toujours décrié les cas d'insécurité qui sont devenus toujours répétitifs dans la commune de Kadutu. Le 1er juin, on a écrit une dépêche qui voulait juste parler des dangers qui courent les dénonciateurs de malfrats et bandits. La nouvelle dynamique de la société civile continue à lancer un cri d'alarme aux autorités politico-administratives de renforcer la logique de la police pour que la police puisse assurer la sécurité des personnes et de l'ordre. Nous continuons toujours à demander au ministère public de pouvoir se saisir de tous les cas de malfrats qui sont toujours dénoncés dans la commune de Kadutu afin que les dénonciateurs ne puissent plus avoir des cas désagréables. Et au commandant, nous continuons toujours à le demander de bien instruire les commandants des sous-commissariats de la police afin de ne plus lâcher tous ces malfrats-là qui sont toujours dénoncés par la population. Et souvent, quand on les dénonce, on les relâche, on les rentre toujours dans nos milieux et promet vengeance à ceux-là qui les ont dénoncés.
Journée mondiale de l'environnement, hier samedi 5 juin, l'ONG Slow Food Tanganyika appelle au comportement responsable des populations face au lac. Depuis plusieurs mois, les habitants observent l'avancée des eaux du Tanganyika sur le littoral. Une avancée qui ne se passe pas sans conséquences. Des maisons entières sont les unes abandonnées à cause des inondations et les autres détruites par les vagues. Pour l'ONG Slow Food Tanganyika, l'heure vient pour la communauté d'adopter un nouveau comportement face au lac. François-Xavier MIB.
Nous sommes contraints de vivre avec l'eau partout dans la maison. Nous avons placé des briques pour surmonter les lits afin de pouvoir dormir. Clémentine Mwangé habite le quartier du littoral des Daves dans le secteur de Grenada. Clémentine vit avec ses 4 enfants dans une maison entourée aujourd'hui par les eaux du lac Tanganyika. La vie que traverse Clémentine est aussi partagée par de nombreux habitants qui ont construit des maisons sur le littoral du lac Tanganyika. Ces eaux touchent le quartier Daves et le quartier industriel. Une situation qui contraint l'ONG Slow Food Tanganyika par la voix de son président d'élever sa voix pour la protection du lac Tanganyika ce jour où la communauté mondiale célèbre la journée de l'environnement. Jean-Pierre Kapalai.
C'est un désastre. Le lac ne fait qu'avancer, il détruit des maisons. Dans nos villages, on ne cesse de brûler les forêts. Le lac est pollué par les déchets ménagers, nos rivières polluées. C'est nous, les habitants de Kalemi, qui sont les auteurs et les co-auteurs de ça.
Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Le lac doit être réglementé, protégé, ne doit pas être pollué parce que tout est clair. C'est question d'appliquer les textes.
À Kalemi, l'avancée des eaux du lac Tanganyika avec toutes ses conséquences sur les maisons d'habitation remonte à mars 2020. Kalemi, François Diabimbe, Radio Okapi.
Au Maniema, inauguration et mise en service ce week-end à Kikungwa par le ministre provincial des Mines d'une drague moderne de la société Royal Gold. Cette drague moderne va servir pour l'exploitation de l'or dans la rivière Oulindi dans le secteur de Beya en territoire de Pangi. La construction de cette drague est une réponse de la société Royal Gold Investment suite à la faiblesse de la production de l'or apportée par les artisanaux. Florence Kizalunga, reportage.
Selon Maître Séraphin Ngumbo, représentant de Royal Gold Maniema, la présence de cette machine va augmenter la production, réduire les risques liés à l'exploitation, générer quelques emplois à la population locale, assurer la traçabilité pour le développement du Maniema et des localités environnantes.
Notre projet, c'est l'achat et la commercialisation de minerais. Alors, la drague ne vient que renforcer ce projet-là. Et nous allons réouvrir le comptoir à Kindu et ici à Kalima parce qu'il y a tellement de l'or. Et nous allons demander à ce que les autorités nous aident à canaliser l'or qui est produit dans tous les sites de Kalima vers le comptoir.
Cette initiative a été saluée par le ministre provincial de Mines, Mupuka Ebembe.
Votre initiative, que nous saluons sincèrement, non seulement d'installer cette machine drague sur la rivière Oulindi, mais surtout de vouloir officialiser sa mise sur pied sous l'œil vigilant du ministre provincial de Mines que nous sommes et ses services techniques et intervenants, sans passer à des manœuvres frauduleuses ou illicites, mérite une appréciation et un encouragement particulier ou exceptionnel de notre part.
Les chefs de secteur de BA Gilles Suedmindo reste convaincu qu'avec ce projet, les statistiques de production vont sensiblement augmenter. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Retournement de situation en Éthiopie à 2 semaines des élections législatives du 21 juin. Eskinder Nega, l'un des principaux opposants politiques actuellement emprisonné, va pouvoir présenter sa candidature. L'ancien journaliste devenu figure d'opposition est derrière les barreaux depuis juillet dernier et son procès n'a toujours pas commencé. Première réaction officielle à Bamako après la décision de la France de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes. Le ministre malien des Affaires étrangères a reçu vendredi l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer. À l'issue de l'entretien, un communiqué a été publié au moment où d'autres actions sont en cours pour apaiser la situation.
L'invité.
Notre invité est le coordinateur diocésain des écoles catholiques au diocèse de Mbujimayi. Il revient sur la collaboration entre l'État et l'Église catholique sur la gestion des écoles. Stanislas Kabeya s'entretient avec Esther Ndalafina.
Monsieur Stanislas Kabeya Chibaka, pourquoi avoir commémoré les journées catholiques de l'enseignement au diocèse de Mbujimayi?
Nous nous retrouvons à la 13e année de l'organisation. Les journées catholiques de l'enseignement, c'est juste pour renforcer notre identité catholique. Nous sommes en train de fêter la date de la signature de la convention entre l'État et l'Église. Vous savez, dans le temps, il y avait eu des problèmes, la République démocratique en ce temps-là, Zaïre, c'est le maréchal Mobutu qui avait eu un peu de soucis avec les églises. L'État zaïrois avait arraché de main des catholiques toutes les écoles. Il a fallu 2 ans après pour constater que c'était la débâcle, que tout n'allait pas pour le mieux. Et finalement, on devait retourner les écoles à l'église. Et on ne pouvait pas le prendre comme ça, l'église comme étant notre mère. Il était question qu'on puisse faire une convention. Voilà, nous fêtons la convention et en même temps, nous sommes là en train de renforcer notre identité catholique.
Et c'est depuis 1976 que les écoles, comme vous dites, avec le feu maréchal Mobutu, que les écoles ont été rétrocédées donc à l'Église catholique. Quel est le bilan par rapport à la gestion des écoles par l'Église catholique?
Il faut reconnaître qu'à ce temps-là, d'abord, s'il faut parler de l'enseignant, l'enseignant était beaucoup plus respecté. L'enseignant avait un salaire de 100. L'enseignant vivait, il était envié. L'enseignant, il n'était pas n'importe qui. Mais voilà, ça a évolué. Malgré la rétrocession, les choses ont évolué.
Quel est l'état des lieux que vous faites de l'enseignant catholique?
L'enseignant catholique, depuis que je suis gestionnaire des écoles catholiques en Mbujimayi, laissez-moi vous dire que tout marche bien. Vous avez les résultats. Nous sommes un réseau qui, chaque année, nous nous distinguons. Nous formons des élèves qui se distinguent aussi. Je suis fier de vous présenter mes élèves qui sont de grands avocats, mes élèves qui sont de grands médecins, qui sont de grands débrouillards, des commerçants. C'est vous dire que Dieu nous a aidés et tout s'est bien passé normalement.
Et qu'est-ce qui peut être à la base de ce succès?
À la base de ce succès, c'est, d'après moi, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aimer. Aimer son métier. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, aimer cet enfant que nous recevons. Comme le Père évêque aime le dire, vous enseignants, chacun reçu de l'Éternel le carnet. Ce carnet vide, le jour où vous allez rentrer auprès de l'Éternel, il va vous poser la question. Il ne faut pas lui remettre le carnet vide. Dans le champ où on vous a appelé à travailler, le carnet est rempli de quoi? Est rempli de la corruption, de la machinceté, rempli de l'immoralité. C'est par rapport à tout ça. Je suis convaincu que l'enseignant s'est très bien défendu et continue à se défendre.
Quelles sont les difficultés auxquelles les écoles catholiques sont-elles confrontées?
Ici en province, les parents ont très mal interprété la gratuité. La gratuité, c'est à l'école primaire qu'il y a la gratuité. À l'école secondaire, je vous donne un exemple, une école dans laquelle les élèves payaient en ce temps-là, avec la motivation des parents, 17 500 par mois. Aujourd'hui, nous avons réduit sensiblement parce que ce sont les retombées de la gratuité. Aujourd'hui, dans ces écoles, on paye à peine 4 500, 5 000 francs le mois. Ce sont les élèves eux-mêmes qui demandent. Les parents veulent qu'on nous chasse pour payer après. C'est dommage. Nous demandons aux parents de ne pas dévaluer l'enseignant et de prendre cet enseignant qui donne cours à son enfant au sérieux. Parce qu'il accepte quand même, parce que nous avons ce salaire, il n'est pas payé. Il n'y a que le NU. Les NU qui demeurent, qui ont remplacé les inspecteurs jusqu'au moment où je vous parle. Et ces NU n'est pas payé. Et c'est bien dommage. Comment voulez-vous? Quelqu'un doit préparer ses leçons, doit préparer ses médecins, doit convaincre les élèves. Mais il est dans quelles conditions? C'est par rapport à tout ça que je voudrais demander, n'est-ce pas? Chez moi, par exemple, il y a le vieillissement du personnel. Je suis en train de faire un travail où je vais peut-être à la clôture de cette année présenter au diocèse le plus vieux enseignant. Je vous dis déjà, j'ai des enseignants qui ont été engagés en 1963 et qui donnent cours jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez retenu les 2 jours, donc vendredi et samedi, comme journée catholique de l'enseignement. Quelles sont les activités qui sont programmé?
En principe, chaque année, nous organisons les journées catholiques pendant 3 jours. Et nous profitons de la détente. Hein, pendant que les élèves vont présenter les examens du premier semestre, ils ont 3 jours de détente. Au lieu qu'ils restent sans occupation, on commence par la culture, c'est la réjouissance. Ce sont des conférences, les enseignants, on peut inviter un prêtre pour un sujet qui cadre avec la religion. Nous organisons un grand défilé sur la place publique. Nous clôturons, nous chitons par une messe d'action de grâce où nous allons dire merci à notre Dieu qui nous a protégés toute l'année.
Monsieur Stanislas Kabea-Tchibaka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Esther.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Mimi Kindou était à la mise en onde. Richard Junior Kamunga à la coordination. Ben Kabamba à la supervision. Je me nomme Nico Kalambay. L'actualité se poursuit en FM et sur toutes les plateformes numériques.